VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 7 février 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Guinée, 5 bébés tués dans des violences post-électorales.
Au Togo, 10 étudiants interpellés et placés en détention hier à Lomé.
Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, critique la volonté des autorités burundaises de réformer unilatéralement la constitution.
Au Tchad, dispersion des manifestants hier à N'Djamena et mise en garde des autorités aux protestataires.
En Afrique du Sud, report de la réunion que l'ANC devait avoir aujourd'hui sur un départ anticipé du président Jacob Zuma.
Après sa chute spectaculaire de lundi, Wall Street a terminé en net hausse hier.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En Guinée, des scènes de violence ont été signalées dans le pays depuis les élections locales du 4 février. À Kélinko, dans Diringaï, à 500 km de Conakry, 5 bébés ont péri dans un incendie provoqué par des manifestants. Le gouvernement déplore ces violences et appelle au calme. Précision de notre correspondant Zakaria Camara.
C'est le ministre de l'administration et de la décentralisation qui fait l'annonce à la télévision nationale. Ce sont des agitateurs politiques, a-t-il précisé. Le général Bourima Condé hésite un instant, ensuite donne le bilan des violences à Dinguiraye. L'information n'est pas facile à donner, avertit le général ministre, avant d'ajouter qu'il s'agit de manifestants qui ont mis le feu aux cases à l'aide d'essence. 5 nourrissons sont morts, c'est le bilan le plus lourd depuis le début des violences post-électorales. Des violences, il y en a eu à Kindia, à Dabola au centre du pays, mais aussi dans la capitale où des policiers ont été blessés, leurs véhicules incendiés. Notre pays n'a pas besoin de violence, regrette le ministre Bourima Condé qui tente enfin de calmer. En matière électorale, il y a le volet contentieux. Faut-il encore attendre que les résultats soient connus, précise-t-il. Les derniers mots du ministre s'adressent aux candidats dont certains n'ont pas hésité à annoncer dans les médias la victoire de leur liste. Conakry, Zakaria Camara, VOA Afrique.
Au Togo, 10 étudiants ont été interpellés et placés en détention hier à Lomé. Ils tentaient de se rendre sur le campus de l'université pour une assemblée générale. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Foli Sativi, président de la Ligue togolaise des droits des étudiants, fait partie des étudiants interpellés. Il avait été arrêté en juin 2017 et condamné à 12 mois de prison avec sursis lors de manifestations sur le campus universitaire de Lomé. Quand les étudiants avec des frondes, des lance-pierres et des bidons d'acide se préparent à s'en prendre à la police universitaire et à semer l'anarchie, nous devons agir, a déclaré Dodzi Komla Kokoroko, président de l'université de Lomé. Il a confirmé que les étudiants arrêtés ont été remis à la police judiciaire. La Ligue des droits des étudiants a appelé à des assemblées générales mardi, mercredi et jeudi sur le campus de Lomé. Les étudiants se plaignent, entre autres, de l'insuffisance du nombre de salles de cours, l'absence de laboratoires dans les départements de langue et à la faculté des sciences. Ils protestent aussi contre la hausse des frais de scolarité à 176 000 francs CFA en masters et 301 000 francs CFA pour le doctorat contre 22 500 francs CFA auparavant.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, critique la volonté des autorités du Burundi de réformer la constitution sans tenir compte de l'avis de l'opposition. Des détails avec Dilidico.
Le gouvernement continue de chercher des amendements constitutionnels qui exacerbent les tensions avec l'opposition, a relevé Antonio Guterres dans un rapport remis aux 15 membres du Conseil de sécurité. Il a ajouté que plusieurs changements proposés à la Constitution ont été mis en cause par l'opposition, comme des tentatives du parti au pouvoir de consolider son emprise, pouvant créer des troubles. Le patron de l'ONU a estimé que même si le Burundi a un droit souverain à amender sa Constitution, un processus aussi important doit être conduit d'une manière inclusive avec les acteurs de la vie politique du pays. Le Burundi est plongé depuis avril 2015 dans une crise politique résultant de la volonté du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Un référendum prévu en mai 2018 propose une révision de la constitution qui permettrait à M. Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, de convoiter à partir de 2020 deux autres mandats de 7 ans.
Au Tchad, la police a dispersé les manifestants hier à N'Djamena et le gouvernement a interdit toute manifestation et lancé une sévère mise en garde aux partis politiques et associations qui voudraient passer outre. Le point avec Anastasie Toudiech.
Djimé Clément Bagao, porte-parole de 6 partis politiques d'opposition, a affirmé que certains manifestants ont été visés hier par des tirs de la police et qu'il y a eu des blessés. Mais la police a aussitôt démenti. N'Djamena est quadrillée depuis 2 semaines par les forces de l'ordre. Le gouvernement a interdit toute marche ou rassemblement. Le ministre de la Sécurité, Ahmad Mahamat Bachir, a averti que tout parti ou association qui tenterait de défier l'autorité de l'État verra ses activités purement et simplement suspendues. Malgré cette menace, des organisations de la société civile ont appelé à un jeudi de la colère. Le secteur public est en grève illimitée, les administrations fonctionnent au ralenti, les écoles sont fermées et les banques assurent le minimum. Les syndicats dénoncent les coupes de salaire des fonctionnaires et un nouvel impôt sur le revenu. Cette grogne sociale généralisée a pris des allures de fronde contre le régime du président Idriss Déby Itno.
La CEDEAO a adopté des sanctions contre 19 personnalités bissao-guinéennes, dont des proches du président José Mario Vaz, pour non-respect d'un accord de sortie de crise. Le point avec Morgane Guiriec.
Ces sanctions prévoient une interdiction de voyager dans l'espace régional et le gel des comptes bancaires de 14 députés. 8 frondeurs du PAIGC et 6 du Parti de la Rénovation Sociale, la deuxième formation parlementaire, et 5 proches du président José Mario Vaz, dont son fils Emerson Vaz. Après désignation le 30 janvier d'un nouveau chef de gouvernement, Augusto Antonio Artur da Silva, la CEDEAO avait dit que cette nomination ne répondait pas aux conditions de l'accord conclu à Conakry en octobre 2016. En vertu de la Constitution, le choix du Premier ministre revient au parti majoritaire. Or, le PAIGC a perdu la majorité de 57 sièges sur 102 à la suite de la fronde de 15 députés. Le président bissau-guinéen a voulu s'appuyer sur une majorité alternative de 41 députés du PRS et de 15 frondeurs. Après une série de mises en garde, la CEDEAO a donc annoncé le 1er février l'entrée en vigueur immédiate de sanctions qui ont été finalement détaillées hier, mardi.
En Afrique du Sud, l'ANC devait se pencher aujourd'hui sur un départ anticipé du président Jacob Zuma, qui est empêtré dans des scandales. Mais selon le parti au pouvoir, sa réunion extraordinaire a été reportée au 17 et 18 février, à la suite des discussions constructives, c'est une citation, hier soir entre M. Zuma et son possible successeur Cyril Ramaphosa.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Congrès américain va tenter d'adopter d'ici à demain jeudi une 5e mesure temporaire de financement de l'État fédéral, faute de compromis avec l'opposition démocrate pour un budget annuel. Malgré l'adoption hier soir d'une autre mesure temporaire à la Chambre des représentants, le spectre d'un shutdown plane encore sur les agences fédérales. Abdourahmane Dia.
L'année budgétaire a commencé le 1er octobre dernier, mais les parlementaires se sont montrés incapables de s'entendre sur le montant et la ventilation des dépenses fédérales pour toute l'année. Le Congrès finance donc depuis toute l'administration fédérale, quelques semaines à la fois, au même rythme que la période précédente, sans pouvoir faire adopter les réformes de fonds voulues par l'administration Trump. En échange de l'augmentation forte du budget de la défense, la minorité démocrate exige que le reste des dépenses intérieures connaissent une hausse équivalente. Elle utilise également l'échéance pour tenter d'arracher la régularisation des centaines de milliers de jeunes sans-papiers, jusqu'à présent en vain. Les républicains peuvent passer le texte à la Chambre des représentants avec moins de difficultés, mais au Sénat, les démocrates disposent d'une minorité de blocage. Si le Congrès ne vote pas de crédit de fonctionnement d'ici jeudi minuit, l'État fédéral doit fermer et renvoyer chez eux les fonctionnaires jugés non essentiels. C'était déjà le cas pendant 3 jours en janvier. Le président Trump a déclaré qu'il préfère une fermeture du gouvernement s'il n'y a pas d'accord sur l'immigration.
Soulagement à la bourse de New York qui a finalement terminé en nette hausse hier à l'issue d'une journée particulièrement chaotique, repartant ainsi de l'avant au lendemain de la pire séance en plus de 6 ans pour le Dow Jones et le S&P 500. L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 2,33% pour finir à 24 912 points. 0,77 points. Le S&P 500, l'indice qui représente les 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis et qui avaient dévissé de 4,1% lundi a suivi une trajectoire similaire et terminé en hausse de 1,74% à 2695,14 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lui clôturé sur une progression de 2,13% à 7115,88 points.
La fusée la plus puissante du monde, la Falcon Heavy de SpaceX, a entamé sa première mission historique mardi, lançant en direction de Mars une voiture de sport rouge cerise avec comme conducteur un mannequin au nom tiré d'un morceau de David Bowie, Space Oddity. Un clin d'œil rock d'Elon Musk, le fondateur de SpaceX, qui avait lancé ce projet en 2011 et dont le rêve ultime est de coloniser la planète Mars. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
D'après le FMI, la chute des recettes pétrolières depuis 2014 continue de peser sur la situation économique de la CEMAC. Le secteur financier souffre avec la diminution des dépôts bancaires, la stagnation des crédits et la hausse des prêts improductifs. Malgré la délicatesse des perspectives à moyen terme, le FMI prévoit une amélioration progressive de la situation économique et financière dans la région. L'institution de Bretton Woods recommande la réduction des investissements publics non prioritaires et l'augmentation progressive des recettes budgétaires non pétrolières. Plus de 4 jeunes urbains sur 10 au Maroc sont au chômage. L'économie marocaine a créé l'an dernier 86 000 postes d'emploi. En revanche, 135 000 personnes sont arrivées sur le marché du travail, soit un différentiel de 49 000 personnes. Le FMI a récemment appelé les autorités du Royaume à prendre très au sérieux ce problème de chômage, notamment chez les jeunes. Les avionneurs américains Boeing et brésiliens Embraer veulent créer une société pour les avions commerciaux uniquement. Les deux constructeurs aéronautiques ont peaufiné un projet commun destiné à gagner le faveur des autorités brésiliennes qui sont inquiètes d'une éventuelle mainmise de Boeing sur les activités militaires d'Embraer. Boeing détiendra 90% de la nouvelle entreprise dont le siège pourrait être basé à Chicago.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les joueurs africains les mieux payés de la Ligue 1.
Eh oui, le journal L'Équipe qui publie son enquête annuelle sur les salaires des joueurs de la Ligue 1. Si le Paris Saint-Germain domine largement le classement global établi par le quotidien sportif, avec 9 joueurs dans les 10 premiers, 2 internationaux africains se glissent dans le top 30. Le Sénégalais de l'AS Monaco, Keita Baldé, 22e avec un salaire brut mensuel, tenez-vous bien, de 340 000 euros. Puis le Burkinabé de l'Olympique Lyonnais, Bertrand Traoré, 24e avec 300 000 euros bruts mensuels. Ça fait rêver.
Le Bayern en demi-finale de la Coupe d'Allemagne.
Le Bayern Munich s'est qualifié hier en atomisant Paderborn, 6-0. Paderborn, club pensionnaire de la 3e division allemande, finaliste malheureux de la saison dernière et le club le plus titré dans la compétition avec 18 victoires. Le géant bavarois n'a pas fait de sentiment face aux petits poussés. À noter notamment les buts de Coman, Tolisso ou encore Franck Ribéry en toute fin de match sur une passe décisive d'Arjen Robben.
Les Pays-Bas ont un nouveau sélectionneur.
Ronald Koeman, 54 ans, a été nommé nouveau sélectionneur de l'équipe des Pays-Bas qui aura pour mission de qualifier pour l'Euro 2020. Le Néerlandais, ancien international, 78 sélections et une victoire à l'Euro 88, a signé un contrat de 4 ans. Il succède à son compatriote Dick Advocaat qui n'avait pas réussi à qualifier l'équipe pour le Mondial 2018. Ronald Koeman, sur le banc d'entraîneur, est notamment passé au Vitesse Arnhem. Il a également été l'adjoint de Guus Hiddink en sélection ou encore de Luis Van Gaal au FC Barcelone. Puis il a entraîné l'Ajax d'Amsterdam, Benfica, le PSV Eindhoven, Valence ou encore le Feyenoord Rotterdam. Allez Drissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Cleveland battu par Orlando 98-116, Toronto bat Boston 111-91, Memphis succombe à Atlanta 82-108, Houston a eu raison de Brooklyn 123-113, victoire de Milwaukee sur New York 103-89 et Philadelphie bat Washington 115-102.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoulia. Nous passons à nos dossiers du jour. Les États-Unis ont demandé au Cameroun de respecter les droits fondamentaux des 47 séparatistes anglophones, parmi lesquels leur leader Sisoko Ayuko Tabe, extradé du Nigeria fin janvier. Brian Newbert, un porte-parole du département d'État, a expliqué à Anastasie Toudiech la position américaine sur ce dossier.
Des 47 Camerounais sont allés au Nigeria. Ils ont essayé des demandes d'asile au Nigeria. Donc, tout d'abord, les États-Unis exhortent le Cameroun et le Nigeria à s'acquitter de leurs obligations en vertu du droit international, c'est-à-dire de s'abstenir de renvoyer de force les demandeurs d'asile dans le pays d'origine. Tout simplement, ça c'est notre demande.
Le pouvoir camerounais considère désormais Sisoko Ayuko Tabe, chef de file du mouvement séparatiste de l'Ambazonie, et ses hommes comme des terroristes et donc qu'ils doivent répondre de leurs crimes devant la justice du Cameroun. Quelle est la position du département d'État sur cette question précisément?
Donc ça c'est une question de la loi camerounaise, donc c'est tout à fait normal qu'il y aura une procédure. Mais pour les États-Unis, ce que nous insistons, c'est que ça soit ouvert dans un état de droit.
La crise dans les zones anglophones s'est lentement muée en conflit armé, avec 22 soldats et policiers tués depuis novembre. Pensez-vous que la résolution du conflit peut être militaire?
J'imagine que non. Si nous parlons d'une solution, nous espérons que ça ne sera pas par la violence. J'aimerais adresser nos plus sincères condoléances aux familles des victimes. Comme vous avez dit, il y a plusieurs personnes qui ont été tuées dans cette violence. Les États-Unis condamnent les violences dans cette situation. Et nous imaginons que les autorités camerounaises vont chercher une solution qui n'est pas uniquement militaire, mais qui est politique, qui est dans un état de droit pour résoudre cette crise dans la région anglophone.
Comment les États-Unis réagiraient-ils en cas de procès qu'ils ne jugeraient pas équitable?
Je ne peux pas imaginer, dans une situation hypothétique, notre réaction. Mais nous espérons bien que ça va continuer dans un contexte qui est dans l'état de droit et qui est transparent pour ces 47 Camerounais et pour d'autres détenus.
C'était un des porte-parole du département d'État, Brian Newbert.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Centrafrique, et nous vous le disions hier, 101 ex-combattants ont été intégrés dans les rangs des forces armées centrafricaines au terme d'une formation de 3 mois assurée par la mission technique de l'Union européenne à Bangui. La cérémonie qui a eu lieu en présence du président Faustin Archange Touadéra entre dans le cadre du processus dit de désarmement, démobilisation, réinsertion et réintégration des ex-combattants. Félix Yepassis Zembrou a joint Jean-Willy Biro Sako, le coordonnateur au processus du DDRR, à la présidence de la République.
Il a été prévu de commencer par un projet pilote qui devrait nous permettre de prendre en charge près de 480 éléments des groupes armés, dont la moitié, c'est-à-dire 240, seraient intégrés dans les forces armées centrafricaines après leur formation. Et les 101 dont la cérémonie de sortie a été présidée par le chef de l'État font partie de ce premier contingent qui a été formé par l'EUTM et qui sera suivi par un autre groupe qui en attente, qui est composé de 139 éléments environ pour faire un total de 240 éléments.
La formation est-elle une condition sine qua non au programme du DDR?
Affirmatif, qu'il s'agisse du programme d'intégration dans les forces de défense et de sécurité, parce qu'il ne s'agira pas seulement des FACAR, mais également de la gendarmerie, de la police, éventuellement des eaux et forêts, de la douane, eh bien, il faut que les éléments qui doivent être préparés à leur entrée dans une activité productif pour le pays puisse être effectivement formé à travers des activités génératrices de revenus, à travers des formations professionnelles. Dans tous les cas, il faut les préparer. Toute activité du DDR va va commencer par un programme de formation de tous ces éléments qui seront sélectionnés.
Maintenant, qu'en est-il des autres groupes armés qui n'ont pas encore intégré le processus? Avez-vous un appel à leur endroit?
Le chef de l'État, il a lancé cet appel en direction des groupes qui hésitent encore à regagner le DDR pour dire que c'est vraiment la voie la meilleure pour sortir des cadres de la violence, des cadres des marginaux, pour entrer dans la société, reprendre vraiment leur place dans la société et contribuer au développement de leur pays. Tous ceux qui hésitent encore, heureusement, il n'y en a pas beaucoup dans ce qui concerne les groupes armés qui n'ont pas décidé d'intégrer le DDR. Donc, nous allons continuer les campagnes de sensibilisation en leur direction. Nous sommes renforcés en cela par le panel de l'initiative africaine pour nous appuyer, pour faire comprendre à tous ceux-là que c'est vers le retour vers la paix, le retour vers la cohésion sociale qui doit être l'avenir de tous et qui doit encourager tous les responsables des groupes à soutenir les efforts qui sont actuellement menés.
Jean Willibiro Sako, ministre conseiller et coordonnateur au processus du DDRR à la présidence de la République.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Mali, la Cour suprême a condamné l'État à payer 25 milliards de francs CFA à une compagnie qui avait fourni des équipements militaires à l'armée. Il s'agit d'une affaire qui avait éclaboussé le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta en 2014. Et le FMI avait réagi en suspendant les décaissements à l'État malien, accusé dans cette affaire de n'avoir pas suivi les règles dans la procédure d'attribution des marchés publics. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint à Bamako le journaliste Alexis Calambri.
Ça fait un grand malaise parce que c'est un dossier qui n'avait jamais été clos, qui avait déjà suscité beaucoup d'encre de salive et qui, au moment où se faisait oublier, revient au devant de la scène. Et de cette façon-là, je crois que ça va contribuer sérieusement à sombrer le bilan du président.
On est à quelques mois de la présidentielle. Est-ce que cela peut jouer un peu contre le président Ibrahim Boubacar Keïta?
Oui, bien sûr que ça va compter en tout cas, parce que si vous avez suivi, tous ces détracteurs parlent des affaires. Et ça, ça fait partie de ce dossier. D'abord, les gens vous disent, oui, le marché du gros star, bien malin, qui pourrait vous dire exactement à combien ça s'élève, qu'est-ce qui a été livré, qu'est-ce qui n'a pas été fait et quelle est la partie des banques dedans. Je pense que c'est vraiment un dossier qui est relancé, mais un dossier qui va vraiment faire de beaucoup d'hommes politiques.
Ça relance aussi le débat sur l'attribution des marchés, sur le gré à gré, et donc, du coup, dans la lutte contre la corruption.
À tous les niveaux, parce que ce dossier est l'exemple typique du manque de transparence et surtout des conséquences de cette manque de transparence, parce que, je le disais tout à l'heure, oui, il y a eu tellement de supputations sur ce dossier, comment ça a été monté, quelle est la part des banques, quelle est la part des politiques, concrètement, qu'est-ce qui a été investi dans l'armement. Ça, c'est toutes les questions qui n'ont jamais été répondues. Ça, c'est tous les aspects qui sont restés nébuleux.
Et selon votre analyse, vous pensez que l'État va tout simplement payer les 25 milliards ou va tenter de faire appel?
En tout état de cause, aujourd'hui, là où on est, l'État ne pourra pas payer. Alors, IBK rempile, puisque visiblement, il est candidat, il trouvera un moyen de régler à l'amiable. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui vient, il est évident qu'il ne payera pas et qu'il va continuer la procédure, et ce qui va faire que les déchets vont surgir et qu'on saura exactement qui est mêlé et jusqu'à quel niveau.
C'était le journaliste Alexis Calambri, joint à Bamako.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
À Dakar, on note une grande présence des centres commerciaux et autres enseignes de grandes marques. Cependant, les endroits les plus fréquentés par les acheteurs demeurent les marchés traditionnels qui se forment un peu partout dans la capitale sénégalaise. Sandaga 80 ans d'existence et le parc Lambay, près d'un siècle d'existence, sont parmi les plus anciens et les plus fréquentés. Si l'un a une notoriété, une variété de marchandises qui attire toujours plus de monde, l'autre, formé par des ressortissants de Lambay, dans la région de Durbel, renferme une histoire très particulière, nous dit notre correspondant sur place, Sedina Abagay.
Sandaga est sans doute l'un des marchés les plus célèbres et les plus fréquentés de Dakar. Malgré sa fermeture depuis 2013 suite à un grave incendie, les commerces aux alentours continuent à attirer les clients. Badou Ndiaye, vendeur de livres d'occasion, explique les raisons de cette popularité.
Le Sénégalais, je peux dire, ont peur des librairies classiques, puisque là-bas, il y a les vitres, il y a les clims, donc ils n'ont pas l'habitude de fréquenter ce genre de librairies pour leur propre consommation. Donc ils préfèrent, en allant au marché Sandaga, passer à côté de Badou Ndiaye, qui vend des livres, qui exerce un commerce traditionnel, échanger des livres ou bien vendre à moitié prix. C'est plus facile, l'abord est plus facile.
Non loin de Sandaga, se dresse le parc de Lambay, un centre commercial traditionnel qui a une histoire assez particulière. Il a été créé pour appuyer financièrement Cheikh Ahmadou Bamba dans sa lutte contre le colonialisme. Dame Sen, un des délégués du marché, explique la genèse du parc de Lambay.
Quand les colons ont décidé de mettre Cheikh Ahmadou Bamba en résidence surveillée à Durbel, un de nos ancêtres du nom de Cheikh Ababakar Ndiaye Tergane a demandé aux disciples de venir à Dakar pour se regrouper et développer des ventes de bois, de sacs et bouteilles en plastique et autres afin de collecter une somme pour soutenir Cheikh Ahmadou Bamba. C'est ainsi que est né le premier parc de Lambay qui se trouve ici au centre-ville de Dakar sur l'avenue du président Lamine
Gueye. Niché au cœur de la ville de Dakar depuis le début du XXe siècle, le parc Lambay est aujourd'hui une plaque tournante des activités commerciales dans la capitale, même si ses occupants demeurent loin de la modernité comme l'indique Dame Sen.
Vous savez, ces parcs de commerce sont issus d'une tradition qui n'a rien à voir avec la modernité. Cet endroit ne peut pas être comme un centre commercial classique. Ici, on peut acheter toutes sortes de marchandises et il y en a pour toutes les bourses. Le parc de Lambay emploie plus de 1500 personnes et fonctionne sans aucune assistance venant de l'État. Cet endroit est bien plus puissant que beaucoup de centres commerciaux de la capitale et les Dakarois l'apprécient énormément.
Les marchés traditionnels demeurent les endroits les plus prisés par la clientèle. Les populations y trouvent toutes sortes d'articles à des prix relativement bas. Même si l'incendie du parc de Lambay de Pikine en banlieue dakaroise remet en cause les installations anarchiques de ces marchés, ces derniers continuent de se multiplier au gré de l'exode des populations rurales vers la capitale. À Dakar, Sedina Abagay pour VOA Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi 8 février, en Guinée, une décennie que cela n'était plus arrivé, la possibilité de voter dans une élection locale, d'élire son maire, son conseiller municipal ou régional. Avec près de 6 millions d'électeurs appelés aux urnes dimanche dernier, 30 000 candidats sur les listes, quels sont les enjeux de ces élections? Comment interpréter le faible taux de participation et la vague de contestation suite aux accusations de fraude? Les conditions sont-elles réunies pour que la Guinée puisse organiser les prochaines élections présidentielles de 2020? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Raissa Girondin et ses invités.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la prise des médicaments antirétroviraux.
Des médicaments que prennent plus de 19 millions de personnes dans le monde dans le cadre d'un traitement quotidien et à vie.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Bosiki Bernard du programme de lutte contre le sida en RDC. Il nous dira comment prendre son traitement et que faire en cas d'effet secondaire.
Nous écouterons aussi le témoignage d'un séropositif. Il nous racontera son quotidien et ses difficultés depuis qu'il prend ses médicaments.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanche et mercredi à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le monde. monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.